Bienvenue dans Actualité du Pape. Nous commençons cette Actualité du Pape par l'audience générale qu'a donnée notre Saint-Père le Pape François, place Saint-Pierre, ce mercredi 24 mai. C'est la Passion pour l'évangélisation, la 14e catéchèse. Il sera question des témoins. Cette fois-ci, Saint-André Kim. En voici la retranscription intégrale. Dans cette série de catéchèses, nous nous mettons à l'école de certains saints et saintes qui, en tant que témoins exemplaires, nous enseignent le zèle apostolique. Rappelons que nous parlons du zèle apostolique, celui que nous devons avoir pour annoncer l'Évangile. Nous allons rencontrer aujourd'hui un grand exemple de saint de la passion pour l'évangélisation dans une terre très éloignée, à savoir l'Église coréenne. Tournons-nous vers le martyr et premier prêtre coréen, Saint André Kim Tae-gong. L'évangélisation de la Corée a été faite par les laïcs. Ce sont les laïcs baptisés qui ont transmis la foi. Il n'y avait pas de prêtres, parce qu'il n'y en avait pas. Ils arrivèrent plus tard. La première évangélisation a donc été faite par les laïcs. Serions-nous capables d'une telle chose? Réfléchissons, c'est une chose intéressante. Et c'est l'un des premiers prêtres, Saint André. Sa vie a été et reste un témoignage éloquent de zèle pour la proclamation de l'Évangile. Il y a environ 200 ans, la terre coréenne a été le théâtre d'une persécution très sévère. Les chrétiens étaient persécutés et anéantis. Croire en Jésus-Christ dans la Corée de l'époque signifiait être prêt à témoigner jusqu'à la mort. Nous pouvons le remarquer en particulier à partir de deux aspects de la vie de Saint André Kim. Le premier est la façon qu'il devait utiliser pour rencontrer les fidèles. Compte tenu du contexte fortement intimidant, le saint était contraint d'approcher les chrétiens sous une forme non manifeste, et toujours en présence d'autres personnes, comme s'ils se parlaient depuis longtemps. Ainsi, pour identifier l'identité chrétienne de son interlocuteur, Saint André utilisait les expédients suivants. D'abord, il y avait un signe de reconnaissance préalablement convenu. Tu rencontreras ce chrétien, et il aura ce signe sur son vêtement ou dans la main. Ensuite, il posait subrepticement la question, mais tout bas, « Es-tu un disciple de Jésus ?» Étant donné que d'autres personnes assistaient à la conversation, le saint devait parler à voix basse, en ne prononçant que quelques mots, les plus essentiels. Ainsi, pour André Kim, l'expression qui résumait toute l'identité du chrétien était « disciple du Christ ». Es-tu un disciple du Christ ? Mais à voix basse, car cela était dangereux. Il était interdit d'être chrétien. En effet, être disciple du Seigneur signifie le suivre, suivre son chemin. Et le chrétien est par nature quelqu'un qui prêche et qui témoigne de Jésus. Chaque communauté chrétienne reçoit cette identité de l'Esprit-Saint, de même que l'Église tout entière depuis le jour de la Pentecôte. C'est de cet esprit que nous recevons que naît la passion pour l'évangélisation, ce grand zèle apostolique. C'est un don de l'Esprit. Et même si le contexte environnant n'est pas favorable, comme celui coréen d'André Kim, la passion ne change pas. Au contraire, elle acquiert encore plus de valeur. Cet André Kim et les autres fidèles coréens ont montré que le témoignage de l'Évangile donné en temps de persécution peut porter beaucoup de fruits pour la foi. Voyons maintenant un deuxième exemple concret. Lorsqu'il était encore séminariste, Saint André devait trouver un moyen d'accueillir secrètement des missionnaires venus de l'étranger. Ce n'était pas une tâche facile, car le régime de l'époque interdisait rigoureusement à tous les étrangers d'entrer sur le territoire. C'est pour cela qu'il avait été, avant cela, si difficile de trouver un prêtre qui venait en mission. La mission a été faite par des laïcs. Une fois, pensez à ce qu'a fait Saint André. Une fois, il marcha dans la neige, sans manger, pendant si longtemps qu'il tomba par terre épuisé, risquant de perdre connaissance et de finir congelé. C'est alors qu'il entendit soudain une voix. « Lève-toi, marche !» En entendant cette voix, André se redressa, distinguant comme l'ombre de quelqu'un qui le guidait. Cette expérience du grand témoin coréen nous fait comprendre un aspect très important du zèle apostolique. Il s'agit du courage de se relever quand on tombe. Mais les saints tombent ? Oui. Mais depuis les premiers temps, pensez à saint Pierre. Il a commis un grand péché. Mais il a trouvé de la force dans la miséricorde de Dieu et s'est relevé. Nous voyons cette force en saint André. Il était tombé physiquement, mais il a eu la force d'aller de l'avant, pour apporter le message. Quelle que soit la difficulté de la situation, qui semble parfois ne pas laisser de place au message de l'Évangile, nous ne devons pas lâcher prise, et nous ne devons pas renoncer à poursuivre ce qui est essentiel dans notre vie chrétienne, à savoir l'évangélisation. Cela est la voie. Et chacun de nous peut penser, mais moi, comment est-ce que je peux évangéliser ? Mais regarde ces grands personnages et pense à ton niveau. Pensons à notre niveau. Évangéliser la famille, évangéliser les amis, parler de Jésus, mais parler de Jésus et évangéliser avec le cœur plein de joie, plein de force. Et c'est l'Esprit Saint qui la donne. Préparons-nous à recevoir l'Esprit Saint lors de la prochaine Pentecôte et demandons-lui cette grâce, la grâce du courage apostolique, la grâce d'évangéliser, de transmettre toujours le message de Jésus. Dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et du 100e anniversaire de sa canonisation, les reliques de la patronne des missions et l'un des quatre docteurs de l'Église femme visiteront Rome du 6 au 16 juin. À ces dates, et plus précisément le 7 juin, les reliques seront présentes sur la place Saint-Pierre lors de l'audience générale du pape François. Selon les déclarations du vicaire général du diocèse de Bayeux et Lisieux, le père Olivier Ruffray, les reliques des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints Louis et Zélie Martin, seront également présentes sur la place Saint-Pierre. Le pape François a consacré de récentes catéchèses à des exemples de zèle apostolique. Il se pourrait que lors de l'audience générale du 7 juin, il aborde la vie de la carmélite française comme l'un de ses témoignages supplémentaires. Voici la retranscription de l'homélie qu'a donnée notre Saint-Père lors de la solennité de la Pentecôte, dimanche 28 mai, en la basilique Saint-Pierre. La parole de Dieu, aujourd'hui, nous montre l'Esprit Saint en action. Nous le voyons agir à trois moments, dans le monde qu'il a créé, dans l'Église et dans nos cœurs. D'abord, dans le monde qu'il a créé, dans la création. Dès le début, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, avons-nous prié dans le psaume 104. Il est en effet Creator Spiritus, Esprit Créateur. C'est ainsi que l'Église l'invoque depuis des siècles. Mais nous pouvons nous demander, que fait l'Esprit dans la création du monde ? Si tout vient du Père, si tout est créé par le Fils, quel est le rôle spécifique de l'Esprit ? Un père de l'Église, Saint Basile le Grand, a écrit « Si vous essayez d'enlever l'Esprit à la création, toutes les choses se mélangent et leur vie apparaît sans loi, sans ordre. » Voilà le rôle de l'Esprit. Il est celui qui, à l'origine et en tout temps, fait passer les réalités créées du désordre à l'ordre, de la dispersion à la cohésion, de la confusion à l'harmonie. Cette manière d'agir, nous la verrons toujours dans la vie de l'Église. En un mot, il donne l'harmonie au monde. Il conduit ainsi le cours des temps et rénove la face de la terre, dit-on dans Gaudium et Spes. Il renouvelle la terre, mais attention, non pas en changeant la réalité, mais plutôt en l'harmonisant. C'est son style, parce qu'il est en lui-même harmonie. Ipse harmonia est, dit saint Basile le Grand. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de discordes, beaucoup de divisions. Nous sommes tous reliés et pourtant nous nous trouvons déconnectés les uns des autres, anesthésiés par l'indifférence et opprimés par la solitude. Tant de guerres, tant de conflits, le mal que l'homme peut accomplir semble incroyable. Mais en réalité, ce qui alimente nos hostilités, c'est l'esprit de division, le diable, dont le nom même signifie diviseur. Oui, précédant et dépassant notre mal, notre désagrégation, il y a l'esprit mauvais, le séducteur du monde entier. Il se plaît dans les antagonismes, les injustices, les calomnies. Ils font sa joie. Et face au mal de la discorde, nos efforts pour construire l'harmonie ne suffisent pas. C'est ainsi que le Seigneur, au point culminant de sa Pâque, au point culminant du salut, répand sur le monde créé son bon esprit, l'Esprit Saint, qui s'oppose à l'esprit de division parce qu'il est harmonie, esprit d'unité qui apporte la paix. Invoquons-le chaque jour sur notre monde, sur notre vie et face à toutes sortes de divisions. Outre la création, nous le voyons à l'œuvre dans l'Église, à partir du jour de la Pentecôte. Remarquons cependant que l'Esprit ne marque pas le début de l'Église en donnant des instructions et des normes à la communauté, mais en descendant sur chacun des apôtres. Chacun reçoit des grâces particulières et des charismes différents. Cette pluralité de dons différents pourrait créer de la confusion, mais l'Esprit, comme dans la création, aime créer l'harmonie à partir justement de la pluralité. Son harmonie n'est pas un ordre imposé, standardisé. Dans l'Église, il y a un ordre organisé selon la diversité des dons de l'Esprit. À la Pentecôte, en effet, l'Esprit-Saint descend en plusieurs langues de feu. Il donne à chacun la capacité de parler d'autres langues et d'entendre sa propre langue parlée par les autres. Il ne crée donc pas une langue égale pour tous. Il n'efface pas les différences, les cultures, mais il harmonise tout sans standardiser, sans uniformiser. Et cela n'a dû faire réfléchir au moment où la tentation du retour en arrière, chercher à tout uniformiser dans des disciplines d'apparence seulement sans substance. Retenons cet aspect. L'esprit qui ne commence pas par un projet structuré, comme nous le ferions, nous qui nous perdons souvent ensuite dans nos programmes. Non, il commence en accordant des dons gratuits et surabondants. En effet, à la Pentecôte, souligne le texte, « tous furent remplis d'Esprit Saint ». Tous remplis. C'est ainsi que commence la vie de l'Église. Non pas à partir d'un plan précis et articulé, mais de l'expérience du même amour de Dieu. L'Esprit crée ainsi l'harmonie. Il nous invite à faire l'expérience de l'émerveillement devant son amour et ses dons présents chez les autres. Comme nous l'a dit saint Paul, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous nous avons été baptisés pour former un seul corps. Voir chaque frère et sœur dans la foi comme faisant partie du même corps auquel j'appartiens, voilà le regard harmonieux de l'esprit, voilà le chemin qu'il nous montre. Et le synode en cours est et doit être une marche selon l'esprit. Non pas un parlement pour revendiquer des droits et des besoins selon l'agenda du monde, non pas une occasion d'aller là où le vent nous porte, mais une occasion d'être docile au souffle de l'esprit. Parce que sur la mer de l'histoire, l'Église ne navigue qu'avec lui, qui est l'âme de l'Église, comme le disait saint Paul VI. Le cœur de la synodalité, le moteur de l'évangélisation. Sans lui, l'Église est inerte. La foi n'est qu'une doctrine, la morale qu'un devoir, la pastorale qu'un travail. Parfois, nous entendons des soi-disant penseurs théologiens qui nous donnent des doctrines froides, qui semblent mathématiques, parce que l'esprit n'est pas présent en elles. Avec lui, au contraire, la foi est vie, l'amour du Seigneur nous envahit et l'espérance renaît. Remettons l'Esprit Saint au centre de l'Église, sinon nos cœurs ne seront pas brûlés d'amour pour Jésus. Mais pour nous-mêmes. Mettons l'Esprit au début et au cœur des travaux du synode, car c'est de lui surtout que l'Église a besoin aujourd'hui. Disons-lui donc chaque jour, « Viens !» Et marchons ensemble, car l'Esprit, comme à la Pentecôte, aime descendre quand tous sont ensemble. Oui, pour se montrer au monde, il a choisi le moment et le lieu où tous se trouvent ensemble. Le peuple de Dieu, pour être rempli de l'Esprit, doit donc marcher ensemble, faire synode. C'est ainsi que se renouvelle l'harmonie dans l'Église, en marchant ensemble avec l'Esprit au centre. Frères et sœurs, construisons l'harmonie dans l'Église. Enfin, l'Esprit fait l'harmonie dans nos cœurs. Nous le voyons dans l'Évangile, où Jésus, le soir de Pâques, souffle sur les disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il le donne dans un but précis, pardonner les péchés, c'est-à-dire réconcilier les âmes, harmoniser les cœurs déchirés par le mal, brisés par les blessures, désagrégés par le sentiment de culpabilité. Seul l'Esprit remet l'harmonie dans le cœur, car il est celui qui crée l'intimité avec Dieu, dit encore saint Basile. Si nous voulons de l'harmonie, cherchons-le, et non pas des compensations mondaines. Invoquons l'Esprit Saint chaque jour. Commençons chaque journée en le priant. Devenons-lui docile. Et aujourd'hui, en sa fête, demandons-nous. Suis-je docile à l'harmonie de l'Esprit? Ou bien est-ce que je poursuis mes projets, mes idées, sans me laisser façonner, sans me laisser changer par lui? Ma façon de vivre la foi est-elle docile à l'Esprit ou est-elle têtue? Entêtée? Attachée à des lettres? À de soi-disant doctrines qui ne sont des expressions froides de la vie? Suis-je prompt à juger, à pointer du doigt et à claquer la porte au nez des autres en me considérant comme la victime de tout et de tous? Ou bien est-ce que j'accueille sa puissance créatrice harmonieuse? Est-ce que j'accueille la grâce de l'ensemble qui l'inspire, son pardon qui donne la paix? Et à mon tour, est-ce que je pardonne? Pardonner, c'est faire place pour que vienne l'Esprit. Est-ce que je favorise la réconciliation et crée la communion? Ou est-ce que je cherche toujours, en mettant mon nez là où il y a des difficultés, à contrarier, à diviser, à détruire? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je favorise la réconciliation? Est-ce que je crée la communion? Si le monde est divisé, si l'Église est polarisée, si le cœur est fragmenté, ne perdons pas de temps à critiquer les autres et à nous mettre en colère contre nous-mêmes. Mais invoquons l'Esprit. Il est capable de résoudre ces choses. Esprit Saint, Esprit de Jésus et du Père, source inépuisable d'harmonie, nous te confions le monde, nous te consacrons l'Église et nos cœurs. Viens, Esprit Créateur, harmonie de l'humanité, renouvelle la face de la terre. Viens, don des dons, harmonie de l'Église, rends-nous unis en toi. Viens, Esprit de pardon, harmonie du cœur, transforme-nous comme tu sais le faire, par Marie. Voici, chers auditeurs, la dernière audience générale, la dernière catéchèse qu'a donnée notre Saint-Père le Pape François, place Saint-Pierre, ce mercredi 31 mai. C'est la 15e consacrée à la passion pour l'évangélisation. Il y sera question du vénérable Matteo Ricci. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons ce cycle de catéchèses en parlant du zèle apostolique, c'est-à-dire ce que ressent le chrétien pour bien effectuer l'annonce de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un autre grand exemple de zèle apostolique. Nous avons parlé de saint François Xavier, de saint Paul, du zèle apostolique des grands zélateurs. Aujourd'hui, nous parlerons d'un Italien, mais qui est allé en Chine, Matteo Ricci. Originaire de Macerata, dans la région des Marches en Italie, après avoir étudié dans les écoles des jésuites et être entré lui-même dans la compagnie de Jésus, enthousiasmé par les rapports des missionnaires qui l'écoutaient, et il s'est enthousiasmé comme tant d'autres jeunes qui ressentaient cela, il demanda à être envoyé dans les missions de l'Extrême-Orient. Après la tentative de François Xavier, 25 autres jésuites avaient vainement tenté d'entrer en Chine. Mais Ricci et l'un de ses confrères se préparèrent très bien, et étudiant soigneusement la langue et les coutumes chinoises, et réussirent finalement à s'établir dans le sud du pays. Il leur a fallu 18 ans, avec 4 étapes dans 4 villes différentes avant d'arriver à Pékin, qui était le centre. Avec persévérance et patience, animé d'une foi inébranlable, Matteo Ricci a pu surmonter les difficultés et les dangers, les méfiances et oppositions. Imaginez à l'époque à pied ou à cheval tant de distance. Et il persistait. Mais quel a été le secret de Matteo Ricci? Par quel chemin le zèle l'a-t-il poussé? Il a suivi toujours la voie du dialogue et de l'amitié avec toutes les personnes qu'il rencontrait, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes et pour annoncer la foi chrétienne. Son premier ouvrage en chinois fut d'ailleurs un traité sur l'amitié, qui eut un impact considérable. Pour s'adapter à la culture et à la vie chinoise, il s'est d'abord habillé comme les bonzes bouddhistes, selon la coutume du pays. Mais il a ensuite réalisé que le meilleur moyen était d'adopter le style de vie et la tenue des gens de lettres, comme les professeurs d'université. Les gens de lettres s'habillaient. Il s'est donc habillé comme eux. Il étudia en profondeur leurs textes classiques avant de pouvoir présenter le christianisme en dialogue positif avec leur sagesse confucéenne et les coutumes de la société chinoise. C'est ce qu'on appelle une attitude d'inculturation. Ce missionnaire a su inculturer la foi chrétienne dans le dialogue comme les pères de l'Antiquité avec la culture grecque. Ses remarquables connaissances scientifiques suscitèrent l'intérêt et l'admiration des hommes de culture, à commencer par sa célèbre map monde, la carte du monde entier connue à l'époque, avec les différents continents, qui révéla pour la première fois aux Chinois une réalité extérieure à la Chine, beaucoup plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Il leur a montré que le monde était encore plus grand que la Chine, et ceux-ci comprenaient, parce qu'ils étaient intelligents. Mais les connaissances mathématiques et astronomiques de Ricci et de ses disciples missionnaires contribuèrent également à une rencontre féconde entre la culture et la science de l'Occident et de l'Orient, qui connaîtra alors l'une de ses périodes les plus heureuses, sous le signe du dialogue et de l'amitié. En effet, l'œuvre de Matteo Ricci n'aurait jamais été possible sans la collaboration de ses grands amis chinois, tels que les célèbres Dr Paul et Dr Léo. Toutefois, la renommée de Ricci comme homme de science ne doit pas occulter la motivation la plus profonde de tous ses efforts, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. Lui, il poursuivait le dialogue scientifique avec les gens de science, mais il témoignait de sa propre foi de l'Évangile. La crédibilité obtenue par le dialogue scientifique lui donnait l'autorité nécessaire pour proposer la vérité de la foi et de la morale chrétienne, qu'il aborde en profondeur dans ses principales œuvres chinoises comme la véritable signification du Seigneur du Ciel. C'est le titre de ce livre. Outre la doctrine, c'est son témoignage de vie religieuse, de vertu et de prière. Ses missionnaires priaient. Ils allaient prêcher, étaient actifs au plan de la politique. Avec tout cela, ils priaient. C'est ce qui alimente la vie missionnaire, une vie de charité. Ils aidaient les autres humblement, avec un total désintérêt pour les honneurs et les richesses, qui a poussé beaucoup de ses disciples et de ses amis à embrasser la foi catholique. Car ils voyaient un homme si intelligent, si sage, si astucieux, dans le bon sens du terme, pour faire avancer les choses, et si croyant, qu'il disait « Mais ce qu'il prêche est vrai, parce que c'est une personne qui rend témoignage, il témoigne par sa propre vie de ce qu'il annonce. » Telle est la cohérence des évangélisateurs. Et cela nous concerne tous, nous chrétiens qui sommes évangélisateurs. Je peux dire le credo par cœur, je peux dire tout ce que nous croyons, mais si ta vie n'est pas cohérente avec cela, cela ne sert de rien. Ce qui attire les gens, c'est le témoignage de la cohérence. Nous, chrétiens, vivons ce que nous disons, et non pas prétendre vivre en chrétien et vivre comme des mondains. Faites attention à cela. Observez ces grands missionnaires. Et c'est un Italien, n'est-ce pas? En observant ces grands missionnaires, nous voyons que la plus grande force, c'est la cohérence. Ils sont cohérents. Dans les derniers jours de sa vie, à ses proches qui lui demandaient comment il se sentait, il répondit qu'il se demandait à ce moment-là si était plus grande la joie et l'allégresse qu'il ressentait intérieurement à l'idée de la proximité de son voyage pour aller savourer la présence de Dieu, ou la tristesse que pouvait lui causer le fait de quitter ses compagnons et toute la mission qu'il aimait tant, et le service qu'il pouvait encore rendre à Dieu notre Seigneur dans cette mission. C'est la même attitude que l'apôtre Paul, qui voulait aller vers le Seigneur, retrouver le Seigneur. Mais je reste pour vous servir. Matteo Ricci meurt à Pékin en 1610 à l'âge de 57 ans. Un homme qui a donné toute sa vie à la mission. L'esprit missionnaire de Matteo Ricci est un modèle à suivre aujourd'hui. Son amour pour le peuple chinois est un modèle. Mais ce qui représente un itinéraire actuel, c'est sa cohérence de vie, le témoignage de sa vie de chrétien. Il a apporté le christianisme en Chine. Il est grand, oui, parce qu'il est un grand scientifique. Il est grand parce qu'il est courageux. Il est grand parce qu'il a écrit tant de livres, mais il est surtout grand parce qu'il a été cohérent avec sa vocation, cohérent avec son désir de suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous se demande en son for intérieur, suis-je cohérent ou suis-je un peu comme ci, un peu comme ça? Ainsi se termine Actualité du Pape. Merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.